Le deuxième point sur ce procès,
c'est que, en principe, lorsque vous avez une accusation dans des affaires aussi graves, hein, des affaires d'assises, eh bien, le parquet, le procureur, l'avocat général, a la charge de la preuve et dispose des moyens nécessaires pour que la vérité puisse éclater. Or là, le parquet à Brazzaville s'est cantonné dans un rôle totalement neutre. On s'est ainsi retrouvé, par exemple, à la fin de l'information, à la fin de l'instruction, avec une ordonnance de renvoi, alors je crois qu'elle porte un autre nom, mais peu importe, devant la cour d'assises, où nous avons une ordonnance qui renvoie 15 personnes accusées pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Et il faut savoir que dans ce document, l'accusation qui à l'époque existait, donc c'était juste avant l'ouverture du procès, hein, l'accusation de génocide était cantonnée sur une page. C'est-à-dire qu'une page pour dire c'est un génocide. C'est pas sérieux. D'abord, nous n'avons jamais dit qu'il y avait de génocide. Ce n'est pas un génocide au sens juridique du terme. Nous avons, nous, invoqué le crime contre l'humanité et non pas le génocide qui suppose une planification et une ampleur qui n'ont pas été celles des événements du Bis de Brazzaville, mais c'est vous dire le peu de sérieux. Et le procureur disant, ben, finalement, tout ça va se faire pendant le procès. C'est pendant le procès qu'on verra s'il y a génocide, s'il y a crime contre l'humanité, s'il y a crime de guerre. Il n'y a donc pas eu de travail préparatoire, ni du côté du juge d'instruction, ni du côté du parquet. Alors, on arrive au procès. Procès qui est démarré depuis, comme vous le savez, la fin du mois de juillet. Premier élément qui est quand même assez étonnant, c'est la composition de cette juridiction au niveau des magistrats professionnels. Car ce sont des magistrats nommés par le chef d'État lui-même, ce qui a valu à l'un des avocats des parties civiles, Maître Malonga, de déposer un recours que s'est empressé de rejeter la Cour suprême, dont vous devinez le degré d'indépendance par rapport au pouvoir en place. Mais c'est tout de même assez étonnant lorsque l'on sait que ce procès a pour quand même objet de mettre en cause les plus hauts responsables, ou certains des plus hauts responsables de l'État congolais lui-même, savoir que ce sont des magistrats nommés par le chef d'État, ça jette quand même déjà une certaine suspicion. Déroulement du procès. Déroulement du procès, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les points vraiment importants. Les points importants, c'est que ce procès, on aurait pu espérer au moins qu'il rétablisse un certain équilibre entre accusations, parties civiles, témoins, qu'il y ait des auditions en nombre suffisant, des confrontations. Alors, certes, il faut le dire, il y a eu quelques confrontations. Certes, il y a eu quelques auditions et quelques témoignages. Certes, quelques avocats de partie civile ou quelques témoins ont pu essayer d'enfoncer, je dirais, le clou, essayer de frapper là où ça fait mal, pour essayer quand même de dire, mais attendez, c'est pas une histoire inventée de toutes pièces, c'est une réalité. Il y a des disparus, nos pères, nos frères, nos enfants sont disparus. Donc il y a eu ce petit passage et cette petite possibilité d'ouverture. Mais c'est bien modeste lorsque l'on sait qu'alors que le procès a duré avant les plaidoiries, je ne sais pas, 10-12 jours, il y a eu à peu près 2 journées consacrées aux auditions des parties civiles ou des témoins, et à la 13e audition, le président a dit « ça suffit », alors qu'on en avait prévu plusieurs dizaines. Il a dit « ça suffit », on en a assez entendu en quelque sorte, et les avocats des parties civiles pourront parler au nom des parties civiles. En revanche, quand il s'est agi des accusés, là, on les a laissés s'exprimer très longuement, ils ont été interrogés, ça demandait 4 fois plus de temps que le temps qui était réservé aux victimes ou aux familles de victimes. Autre symbole très significatif, et qui quand même doit interpeller, je pense, quand on essaye de nous présenter ce procès comme un procès tout à fait équitable, autre symbole significatif. Est-ce que vous avez jamais vu dans des affaires de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, alors écartons le génocide qui finalement l'a été par le parquet dans son réquisitoire, les crimes contre l'humanité. Est-ce que vous voyez 15 accusés comparaître absolument libres, arriver avec leur voiture de fonction, entourés de tous les égards, avec, a dit le président, je cite, leur fan club dans la salle, leur fan club dans la salle, à ces personnes-là, bien. Et de l'autre côté, les familles, leurs avocats, constamment sous la menace d'intimidation, avec des gardes en armes qui se trouvaient dans la salle, dont vous pouvez devinez le degré d'afféodation au pouvoir en place, donc qui entourait la cour. C'est tout de même tout un symbole. Comment voulez-vous que les familles ou les témoins puisse s'exprimer dans des conditions de sérénité dans ce simple contexte retracé, si vous voulez, de composition du tribunal. Outre le fait qu'au début, d'ailleurs, les familles ne pouvaient même pas pénétrer, par la suite ça s'est amélioré, ne pouvaient pas pénétrer toutes dans la salle d'audience. Alors, voilà quelques éléments, je crois, qu'il faut quand même mettre en exergue pour porter une appréciation sur ce procès. On en vient à la fin du procès, celle qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, comme vous le savez, il y a eu d'abord les plaidoiries des avocats des parties civiles, là aussi avec un temps réservé beaucoup plus court que celui qui est réservé aux avocats des personnes mises en examen. Il y a eu un réquisitoire de la part du parquet, bon, qui là, pour la première fois, s'est un peu manifesté et a essayé de montrer une forme relative de sévérité dans les demandes de condamnation, sauf erreur, mais ça, M. Tuanga précisera tout à l'heure, demande de condamnation à des travaux forcés, échelonnés entre 5 et 10 années, et avec évidemment des variations ou des gradations selon les personnes accusées. Et enfin, actuellement, je ne sais pas si c'est terminé à l'heure où nous parlons, les plaidoiries des avocats de la défense. Alors, l'autre paradoxe, et je vais à peu près avoir terminé de ce procès, car je terminerai à peu près par là. Je pense que c'est ça la clé, c'est ça l'essentiel. L'autre paradoxe de ce procès, c'est qu'on s'est retrouvé donc avec des parties civiles à qui incombait la charge de la preuve et avec des moyens évidemment dérisoires pour l'apporter, un parquet qui n'a pas apporté son soutien, un juge d'instruction qui n'a pas fait son travail préalable, et une défense qui a joué entre la vague reconnaissance de possibilité de quelques bavures, disons, et puis une logique de dénégation qu'on a connue à de nombreuses reprises tout au long de cette affaire. Alors, logique de dénégation qui est évidemment inacceptable, et je le dis ici, bon, je connais au moins très bien l'un des avocats français qui a accepté d'aller défendre les accusés dans ce procès de Brazzaville, et qui s'est prêté à ce jeu consistant à mettre en cause, par exemple, le travail de la FIDH, de la Ligue française des droits de l'homme, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, de l'Association des familles de disparus, des gens qui viennent dire « Mais qu'est-ce qu'il est advenu ? Qu'est-ce qu'il est advenu ?» Eh bien, cela a été mis en cause en disant « Mais c'est une invention, c'est une affabulation. » Mais enfin, tous les recoupements que nous avons dans ce dossier depuis le départ montrent qu'il y a des disparus, et les autorités elles-mêmes ne disent plus expressément « Il n'y a pas de disparus », ils ne disent plus sous cette forme, c'est fini ce stade. Bien, alors, ce procès, qu'est-ce qu'il a fait ressortir au niveau de la vérité sur les disparus? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de plus sur les disparus? Qui sont-ils? Où sont-ils? Quelle est la réalité de tout ça? Qu'est-ce qui a été? Rien, rien. Il n'y a pas de réponse. Or, l'objet d'un procès, c'était tout de même cela d'abord, avant de statuer sur éventuellement les responsabilités des uns et des autres. Comment fin de le faire? Comment fin de le faire? Et un élément intéressant qui est une coïncidence temporelle, c'est que le groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies avait été saisi du problème des disparus. Et justement, le 26 juillet 2005, le groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies nous informe avoir saisi les autorités congolaises pour leur demander des explications sur le cas de 80 personnes nommément désignées, considérées comme disparues. Donc les Nations Unies, dans le cadre de ce groupe de travail sur les disparitions volontaires ou forcées, interpellent, là actuellement, les autorités du Congo-Brazzaville sur le sort réservé à 80 personnes. C'est un élément supplémentaire de preuve de ce que ce procès, connu évidemment des autorités onusiennes, n'est pas la réponse appropriée aux yeux même de ces autorités onusiennes et de la communauté internationale. Alors, je crois que, bon, c'est un scénario écrit d'avance, ce qu'il faut savoir. Tout ceci, c'est un procès en trompe-l'œil, c'est un procès de façade. Tout ceci a été dit, d'ailleurs, mais il faut le redire, c'est une parodie de justice, ce qui explique que Maître Valonga, l'un des avocats des parties civiles, se soit déconstitué parce qu'il ne voulait pas se prêter à ce jeu. Et c'est la raison pour laquelle nos organisations et beaucoup des disparus ont refusé de s'associer à cette mascarade. Ça ne veut pas dire que nous nous en soyons désintéressés. nous avons en permanence eu des envoyés de la FIDH tout au long du procès qui ont suivi journellement le déroulement du procès. Nous nous serions félicités d'un procès qui aurait répondu aux normes du procès équitable et impartial. Mais force est de constater, à travers les éléments que je me suis efforcé de résumer, que nous ne sommes pas dans le cadre d'un procès qui répond aux normes du procès équitable rendu de manière impartiale par une juridiction indépendante. Et c'est cela que nous dénonçons. Alors nous sommes à la veille du verdict, à quelques heures peut-être de ce verdict. La question qui est posée, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il va... Peu importe, je dirais, je crois que quel que soit le verdict, alors on peut dresser divers scénarios. Le scénario est écrit d'avance, hein, mais nous, nous n'en sommes pas évidemment les détenteurs. Hein, nous ne sommes pas le pouvoir du Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas les juges. Ils savent, les juges, ce qu'ils vont décider. C'est déjà fait, le procès, c'était le semblant. Il fallait quand même tenir un procès avant de rendre la décision. C'était le minimum. Donc on a tenu le procès, on va rendre la décision. Alors, est-ce que l'on va condamner quelques sous-fifres et épargner les plus hauts responsables? Est-ce que l'on va condamner des sous-fifres et condamner quand même, pour l'exemple, quelques hauts responsables? Est-ce qu'il y aura une amnistie ou une grâce de main? Est-ce qu'ils feront leur peine? Est-ce que, bon, toutes ces questions peuvent être posées, on ne sait pas exactement ce qui va se décider. Ce que l'on peut affirmer, c'est que ce procès n'a permis ni d'établir la vérité, ni de rendre la justice. Car il ne peut pas y avoir de justice avant une vérité, avant que les faits ne soient établis, avant que les victimes n'aient pu savoir le déroulement réel des événements, n'aient pu obtenir des réponses à leurs interrogations. Que sont devenus nos pères, que sont devenus nos maris, que sont devenus nos fils? Et c'est cette question qui subsiste. Et ça reste, il faut bien comprendre, la raison de notre combat, car je voudrais dissiper là-dessus toute ambiguïté. Certains avocats, je dois dire, ça me chagrine, parce que je connais certains d'entre eux, sont allés jusqu'à dire que la FIDH, bon, c'était... Et les organisations de droits de l'homme, et Amnesty, Survie, nous connaissons tous ce type de discours, on faisait leur fonds de commerce de ces procès. C'est scandaleux, c'est aberrant, ça ne mérite même pas de réponse. Ce que je veux ici dire au nom des victimes, c'est que ce combat-là, nous l'avons mené depuis plusieurs années pour les victimes, pour la mémoire des victimes, pour la vérité, pour la justice. Nous le mènerons jusqu'au bout, et ce n'est pas le procès de Brazzaville qui mettra un terme à cette affaire. Les autorités de Brazzaville se trompent si elles pensent qu'elles vont avoir effacé le massacre, les disparitions de mai 1999 à Brazzaville. J'ai été très long, je vous prie de m'en excuser, c'est difficile sur ce sujet qui, vous l'avez peut-être un peu perçu, nous a beaucoup investi, m'a personnellement beaucoup investi. C'est pourquoi je tenais quand même à donner ces quelques éclairages qui ne sont pas peut-être dans la tonalité de la presse officielle de Brazzaville d'aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Marcel Tronga, qui représente donc les familles de victimes.